religion a des extrémistes et chaque religion est personnelle à chacun. Puis en même temps, dans des espaces publics, ben qu'est-ce qu'on veut? Moi, à moins 30, avoir le visage recouvert, ça me tient au chaud. C'est pas religieux, mais on est au Québec. Qu'est-ce qui est mieux que l'autre? Comment la police va me distinguer de la femme voilée qui a un complot et une bombe dans sa burqa? Hey, du monde sont rendus là, là. Québec fier, mon cul. Hey, 6 heures, on va y aller, nous autres.
C'était rough.
Hey, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. On se reparle demain. Après-midi, à 14h.
Salut!
Ouais, salut! Salut! Keep on rolling,
baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby! Le pit stop avec Denis Gravel, 7h45. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iaccarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
C'est un plaisir de l'accueillir ce soir. C'est Maître Alexandre Langlois qui est criminaliste chez alterlexis.ca. On va parler du droit criminel 101 avec Maître Langlois. Monsieur Langlois, bonsoir. Merci d'être là.
Bonsoir. C'est un plaisir d'être présent.
Est-ce que c'est une première expérience pour vous au niveau de la radio pour parler du droit criminel en général? J'imagine que vous avez fait quelques petites interventions ici et là. Mais là, quand même, un podcast de 60 minutes, ça va vous en demander beaucoup.
Effectivement, ça va être une première de parler longuement, de long en large du droit criminel, mais je suis prêt.
On a à peu près 1001 questions. Je ne sais pas si on va avoir assez d'une émission pour passer au travers de toutes ces questions-là. Mais bref, je suis persuadé que ça va être un plaisir. Puis ça va être au bénéfice des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. Le droit criminel, c'est arrivé comment ça dans votre vie, Maître Langlois?
De façon très fortuite, je dirais. Là. C'était pas vraiment prévu. Là. Moi, je voulais devenir agent de brevet, donc travailler vraiment en droit des affaires, puis travailler sur les brevets, les innovations, parce que j'ai un background en sciences. Puis finalement, lorsque j'ai complété l'école du barreau, on doit faire un stage de 6 mois. Moi, j'avais choisi de faire mon stage dans un cabinet plus généraliste pour pouvoir toucher un peu à tout. Puis la première journée de stage, j'ai touché un droit, en fait, j'ai travaillé sur un dossier de droit criminel, puis j'ai eu la piqûre, puis j'ai demandé à faire uniquement du droit criminel dès ce moment-là.
Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose qui était en vous à un très jeune âge? Est-ce que vous, vous regardiez, l'avocat du diable avec Keanu Reeves, puis vous vous êtes dit, ah, c'est le genre de travail que je veux faire?
Non, malheureusement, vraiment pas. Comme je mentionnais, moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir un scientifique, de travailler dans des laboratoires. Finalement, la réalité, travailler dans un laboratoire, ce n'était pas celle que je pensais. J'ai vraiment apprécié là, mes expériences en laboratoire. J'hésitais entre l'enseignement puis le droit parce que je savais que j'aimais parler. Chose qui me démarquait en sciences. Je faisais beaucoup de vulgarisation en sciences, j'aimais parler, prendre la parole, donc c'est j'ai fait le choix tout simplement d'aller en droit. C'était plus ou moins réfléchi un coup de tête, finalement je pense que j'ai pris la bonne décision en m'inscrivant au bac en droit puis en poursuivant mes études dans ce domaine-là.
Ouais. Puis bon, il y a plusieurs domaines dans le droit, puis vous, le droit criminel, vous y avez touché et vous vous êtes dit c'est ce que je vais faire toute ma vie.
Oui. Puis, sans l'ombre d'un doute.
Puis quelle est la portion du droit criminel que vous aimez le plus pratiquer? Les dossiers, est-ce que c'est des dossiers, je sais pas moi, des dossiers de fraude, des dossiers de conduite avec des facultés affaiblies, conduite dangereuse, des crimes sexuels, possession de stupéfiants?
Moi, de mon côté, j'ai une bonne clientèle qui est... Une population carcérale qui est issue de la population carcérale, donc j'ai beaucoup de clientèles qui sont détenues. Une majorité de mes dossiers sont en matière sexuelle, pas en matière de fraude. D'où mon background en matière fraude, c'est sûr, certains, mon background un peu plus affaires que j'ai fait, j'ai touché un peu au droit des affaires aussi en début de pratique. C'est quelque chose que j'aime bien, là, les dossiers de fraude. Là. Donc, quand on doit aller dans les chiffres puis faire des calculs, c'est quelque chose que j'aime bien. Sinon, la portion crime sexuel, c'est aussi quelque chose, ça prend une bonne partie là, de ma pratique. Crime sexuel, souvent, on me demande pourquoi, là,
Mais ça va être ma
évidemment.
prochaine question. Vendez pas mon punch, vendez pas mon punch.
Ben, c'est ça, crime sexuel, c'est pas mal, je dirais 80% de mon caseload
OK.
en matière sexuelle.
Puis qu'est-ce qui fait en sorte, bon, en droit criminel, vous pourriez être procureur de la couronne ou encore, bon, vous avez choisi d'être criminaliste, donc vous défendez les droits des gens qui sont accusés. Pourquoi pas avoir été de l'autre bord, tu sais, être Superman, exemple?
Parce que moi, je considère que c'est moi Superman à la défense, tout simplement. C'est une façon, c'est une belle perspective. Moi, je trouve que mon rôle à la défense est quand même assez, oui, il est particulier quand on connaît plus ou moins le système de la justice, parce qu'évidemment, on défend autant des gens qui peuvent se dire innocents comme des gens qui peuvent avoir commis le crime. Il ne faut pas penser que on croit que 100% de nos clients n'ont pas commis là, les infractions. Une bonne majeure partie de notre travail, c'est on va négocier là, des plaidoyers de culpabilité, donc regarder au niveau là, de la peine. Donc, ça aussi, c'est un volet quand même assez intéressant. S'assurer qu'un individu qui a commis une infraction criminelle reçoive la bonne peine, la peine juste en fonction de ce qu'il a commis. Mais moi, je pense que c'est surtout le challenge intellectuel qui fait que je suis à la défense et le lien hautement privilégié que j'ai avec mes clients. Il n'y a pas une journée que je me dis, ouais, ça n'a pas de sens que t'sais, j'ai accès à cette information-là. Les gens, ils me racontent, je rentre dans une sphère quand même assez très personnelle de mes clients, ils me font confiance. Le lien de confiance que je partage avec mes clients est quand même assez particulier aussi. Puis ça fait partie des raisons pourquoi j'aime vraiment la défense. Puis le challenge intellectuel au niveau de la pratique du droit, c'est quand même assez particulier parce qu'évidemment, bon, un procureur de la couronne, ils ont un rôle super important. Puis c'est un travail assez difficile d'être procureur de la couronne. On les voit aller. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes collègues là, à la couronne. Mais c'est certain que nous, à la défense, on se bat contre l'État. Donc, on se bat contre la partie qui a toutes les ressources pour pouvoir accuser quelqu'un. Donc, c'est certain qu'il y a aussi cet aspect-là de la pratique que j'aime, de pouvoir représenter quelqu'un contre l'État, puis de trouver, bon, est-ce qu'il y a une façon de... Tu sais, de quelle façon on peut le défendre face à ce qui s'est passé? Est-ce que ses droits ont été respectés? Puis si ses droits n'ont pas été respectés, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite de ça, bien, si jamais les gestes ont été commis, puis le client est prêt à avouer le crime, bon, ben c'est quoi la bonne peine? Est-ce que c'est nécessairement de l'emprisonnement? Est-ce que ça peut être d'autres choses que de l'emprisonnement. Donc, ça fait partie aussi des raisons pourquoi j'adore mon métier à la défense.
Est-ce que vous êtes capable de dissocier vos valeurs fondamentales de votre travail? C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, puis là, il dit, Monsieur, Maître Langlois, je veux me faire défendre par vous, je suis persuadé qu'on va gagner, voici ce que j'ai fait. Puis là, vous entendez quelque chose de complètement atroce, là. Puis, normalement, dans votre vie, ben, t'sais, vous auriez réglé le problème de cet individu en disant, regarde-moi, là, tu ne m'intéresses pas comme individu, fait que je ne veux pas t'inviter à mon party de Noël, t'sais. Mais là, c'est un client, il vient vous voir. Est-ce que vous êtes capable de vous dissocier de ça en disant, moi, dois faire abstraction de ça et je dois faire respecter les droits de l'individu qui est en face de moi?
C'est une excellente question. Habituellement, je dirais à chaque fois que je vais dans un party, ou que ce soit un party de Noël, que ce soit un party d'amis, ou que je rencontre des nouvelles personnes, automatiquement, la première question qu'on me pose, c'est comment je fais pour dormir le soir. Donc, ça, c'est souvent comment on me formule la question qu'on vient de me poser. Je dors très bien le soir parce que moi, j'ai vraiment une capacité de mettre mon chapeau d'avocat puis de faire vraiment une distinction entre mes propres principes moraux que j'ai en tant que personne, puis mon rôle d'avocat de la défense. Puis ce qui est important aussi à comprendre, puis ce qui peut être difficile aussi à imaginer, c'est que moi, mon rôle, ce n'est pas de juger ce qui s'est passé, hein. Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment de regarder au niveau des droits au niveau de l'arrestation, au niveau de l'infraction qui est reprochée. Est-ce qu'on est vraiment dans cette infraction-là? Est-ce que ça peut être une autre infraction? Est-ce que c'est les bonnes accusations qui ont été déposées? Est-ce que la personne a été victime d'un abus de procédure? T'sais, tout ça, c'est des choses qui doivent être validées puis vérifiées auprès du client. Moi, qu'il ait commis le geste ou pas, pour moi, ça ne change rien parce que moi, mes intérêts sont orientés vraiment vers le droit. Donc, c'est sûr qu'après ça, si le client avoue le crime, on a évidemment des obligations déontologiques. En tant qu'avocat, on peut pas essayer de berner le tribunal sachant qu'un individu a commis un geste. Ça fait partie de notre rôle puis de notre position à la défense. Mais effectivement, c'est quelque chose que je suis capable de faire, là, de faire la distinction entre qu'est-ce qui s'est passé, puis mon rôle d'avocat, puis vraiment de me concentrer sur le droit.
Est-ce que vous avez déjà douté d'un de vos clients? Puis est-ce que c'est facile de continuer à travailler pour que le droit de ce client-là soit respecté, alors que vous savez pertinemment qu'il vous a menti?
Oui, c'est sûr, c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé avec un client que je réalise qu'il est en train de me berner moi-même. C'est certain qu'à ce moment-là, ça devient effectivement difficile de continuer à le représenter parce que moi, je considère que le client, si moi j'apprends des choses au fur et à mesure que le dossier avance ou que je l'apprends pas par lui, bien, c'est certain que c'est lui qui va écoper en bout de ligne. Là. Ça va se retourner contre lui. Souvent, des fois, il y en a qu'on apprend des choses en plein procès, puis... On va rencontrer son client, puis on dit là, t'es sûr que tu veux qu'on continue le procès, là, parce que si on continue, ça va juste mal aller pour toi. Puis donc, moi, j'ai quand même une nature assez confrontante auprès de ouais. mes clients. Moi, il y a une question que je pose jamais. Je pose jamais la question est-ce que tu l'as fait? Ça, c'est une question que je ne pose jamais. En fait, moi, la question que je pose quand les clients rentrent dans mon bureau, c'est ben, pour quelle raison t'es assis dans mon bureau? Je leur donne la parole tout simplement. Puis après ça, moi, je vais poser des questions pour orienter en fonction du droit, des choses que je sais que je dois évaluer en tant qu'avocat de la défense. Mais jamais, 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 je vais poser la question est-ce que le geste a été posé. Je vais vraiment donner l'occasion à mon client de me raconter pourquoi il est dans mon bureau, puis pourquoi il a besoin de mes services finalement. Puis souvent, ben, ça vient de ça. C'est quelqu'un qui est pris par une grande culpabilité, puis qui veut reconnaître ses gestes, mais il va l'avouer assez rapidement dans son discours, versus quelqu'un qui a vraiment l'impression d'être victime d'une injustice ou qui ne comprend pas pourquoi il a été poursuivi. Bien, ça aussi, ça va sentir. Puis évidemment, l'individu qui essaie de me berner, bien, ça aussi, c'est facile à déterminer en quelques questions. Puis je prends en considération, je vais essayer peut-être plus de le confronter pour s'assurer que sa version est prête puis est solide. C'est vraiment ça qu'il est en train de me raconter, mais Je ne vais jamais poser la question directement est-ce que le geste a été commis.
Mais je pense que quelqu'un qui a des bonnes valeurs fondamentales, qui voit des accusations contre lui être portées, des accusations criminelles, la moindre des choses, c'est de dire toute la vérité à son avocat, là, puis de cacher absolument rien. Parce qu'en disant toute la vérité et en ne cachant rien, il y a plus de chances que ça l'aide, puis qu'il y ait des éléments dans tout ce que cet individu-là va apporter qui puissent vous servir dans votre métier pour le sortir, lui, du trouble. T'sais. De quelle façon ça s'est fait? Les policiers l'ont traité de quelle façon? La lecture des droits, les éléments qui ont été apportés, combien de temps il a été gardé, je ne sais pas, en captivité, ça se dit-tu, mais combien de temps il a été détenu. Gardé à centrale de police? Combien de temps il a été détenu? T'sais, c'est tous des éléments qui sont hyper importants à votre métier. Donc, de dire la vérité, l'avocat n'est pas là pour juger. C'est le juge qui jugera par la suite. L'avocat est là pour que les droits soient respectés.
Effectivement. Effectivement, mais je dirais que la grande majorité des clients, on a un bon lien de confiance avec eux. Puis en tout cas, je parle au rond pour l'ensemble de la profession, mais je vais parler peut-être plus pour moi. Moi, mes clients, j'ai un très bon lien de confiance avec eux. J'aime ça aussi donner l'impression que je suis accessible aussi. Là. Moi, mes clients, ils m'appellent Alex, ils peuvent me texter. J'ai assez une bonne proximité avec mes clients. Puis je pense que ça fait partie aussi de la raison pourquoi les clients ils font confiance, puis lorsqu'ils me donnent leur version, ben ils me donnent l'entièreté. J'ai accès à l'entièreté de leur version, du moins. Ça, je trouve ça quand même important aussi là, par rapport à ma pratique, là, de m'assurer qu'il y a un lien de confiance des deux côtés. Ce n'est pas juste moi qui dois leur faire confiance, mais eux autres aussi. Là.
Maître Alexandre Langlois, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des clients qui étaient dans les prisons actuellement. Ces gens-là, ce n'est pas des gens qui ont nécessairement les moyens de se payer un avocat. Ça fonctionne comment, tu sais, quand on va voir Maître Langlois, qui est criminaliste, puis je suis déjà un détenu, mais on va se le dire, il n'y a pas vraiment de rentrée d'argent. Vous faites comment pour vous faire payer? Il faut bien que vous gagnez votre vie.
Souvent, c'est la famille qui peut avancer les honoraires.
Ouais.
Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à pratiquer en droit criminel. J'ai commencé à avoir de plus en plus là, une clientèle carcérale, donc des clients qui sont détenus souvent à l'établissement de détention de Québec ou au pénitencier de Donnacona, évidemment à Québec, là, c'est les deux les plus près. La famille, souvent, est toujours proche pour ces individus-là. Souvent, ils ont des conjoints-conjointes aussi. Donc, on peut faire affaire avec eux au niveau peut-être plus monétaire, mais évidemment, un point qui est en fait, la situation qu'on voit le plus fréquemment en matière avec des gens qui sont criminalisés et en population carcérale, bien évidemment, c'est des gens qui n'ont pas de revenus. Donc, ils sont admissibles la plupart du temps à l'aide juridique, qui est le programme finalement gouvernemental là, qui permet de rendre accessible à une population qui est plus vulnérable là, au niveau monétaire, là, de pouvoir rendre accessible là, les services d'un avocat. Donc, moi, par exemple, je ne travaille pas au bureau d'aide juridique. Il y a des bureaux d'aide juridique, là, qui c'est des avocats de l'aide juridique qui travaillent pour l'État finalement, mais qui... En fait, c'est pas nécessairement des fonctionnaires, là, mais c'est qu'ils travaillent au bureau d'aide juridique, ils fournissent leur service directement. Mais moi, je suis un avocat de la pratique privée, puis j'accepte des mandats d'aide juridique. Donc, un individu qui a une situation financière précaire va se faire évaluer auprès du bureau d'aide juridique. S'il rentre dans leurs critères, il va avoir un mandat d'aide juridique qui va être émis, puis moi, je vais être rémunéré par...
Mais en même temps, ça descend vos honoraires parce que ce que eux peuvent vous donner versus ce que vous pouvez gagner au privé, exemple, c'est pas du tout le même montant. Fait que c'est un don de soi que vous faites en tant qu'avocat.
Effectivement, c'est pas tous les dossiers qui sont payants. Je dirais qu'il y a des dossiers, je ne vais pas nécessairement accepter d'emblée tous les dossiers là, d'aide juridique là, parce qu'évidemment, quand on évalue que. Il y a un dossier qu'on va être payé X montant, puis qu'on se dit, OK, je vais peut-être travailler un mois là-dessus, mais peut-être que ça vaut pas la chandelle. Parce qu'évidemment, j'adore mon métier, je constate que je suis très passionné du droit, mais quand même que je paye mes billes à la fin de la journée. Donc, c'est certain que c'est pas l'ensemble des mandats d'aide juridique là, qui vont être acceptés de ma part. Là. Chaque avocat ont son propre fonctionnement. Mais je dirais que ça fait partie des problématiques qui sont soulevées, des enjeux qui sont soulevés par rapport aux avocats criminalistes de la défense en pratique privée, là, que les honoraires en matière d'aide juridique sont quand même assez bas pour certains dossiers. Là, puis il y a plusieurs mesures de pression qui ont été faites récemment et qui vont probablement être faites dans le futur rapproché pour pouvoir évidemment là, que ça vaille la peine là, pour pas s'assurer non plus de rentrer uniquement dans un pattern de pratique à volume. Là, une pratique à volume, si on accepte tout, on prend tout, puis on règle, on fait ça rapidement. Ce qui est sans nécessairement dire que les avocats qui font une pratique à volume tournent les coins ronds, mais c'est certain que si on a une pratique à volume, bien, ça veut dire que c'est moins de temps accordé aux clients pour discuter. Mais c'est sûr que ça fait partie aussi là, de la problématique des enjeux de la rémunération des avocats avec l'aide juridique. Puis en droit criminel, veut pas, il y a quand même un lien assez. On le voit là, dans les salles de cours ou en rencontrant les clients, il y a un certain lien avec la criminalité puis et l'issue, la situation financière là, des gens. Donc, c'est certain que souvent, les gens qui ont une certaine vulnérabilité ou précarité financière bien, sont davantage criminalisés. Donc, puis je considère que c'est quand même important que ces personnes-là soient aussi représentées malgré tout là, devant les tribunaux par avocat, parce qu'évidemment, ils se battent contre l'État, là, comme j'expliquais tout à l'heure.
Mais je pense à la fameuse balance de la justice. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre des forces, parce que d'un côté, le gouvernement a un peu plus d'argent que l'individu qui est incarcéré. Quand il va se présenter en cour avec l'aide juridique, ben c'est avec un certain montant qui va se présenter en cour. Et de l'autre côté, ben il y a l'avocat de la couronne qui va être bien rémunéré, puis qui a de multiples ressources. Est-ce que, quand on a l'aide juridique, nécessairement, est-ce qu'on a des avocats qui ont beaucoup d'expérience comme vous, ou des avocats qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, ou on a des avocats qui débutent comme avocats, qui vont décider de prendre plusieurs mandats de l'aide juridique pour se faire une base de clients, un bon revenu, pour une fois de temps en temps avoir peut-être des gens qui sont du privé. Est-ce que l'équilibre est encore là avec ces petits montants que l'aide juridique donne?
Il y a quand même beaucoup d'avocats de plusieurs années d'expérience qui acceptent les mandats d'aide juridique, là, ouais. Parce que ça se prête bien à la pratique en droit criminel. Là, comme j'expliquais, ça fait partie aussi quand même d'une bonne partie de la clientèle. Il y a plusieurs avocats criminalistes qui n'acceptent pas du tout là, des mandats d'aide juridique. Il y en a plusieurs comme moi avec un peu plus d'années d'expérience que là, ils vont peut-être avoir un tri en fonction des mandats qui peuvent être acceptés ou pas. Sinon, évidemment, le classique d'un avocat qui débute, qui va prendre un peu tous les mandats d'aide juridique pour débuter sa pratique, c'est certain que ça se voit. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai commencé ma pratique. Dès les premiers mois, je suis parti à mon compte. Je me suis lancé à mon compte, puis moi, j'acceptais pas les mandats d'aide juridique parce que je connaissais pas ça. J'avais été formé dans un cabinet qui prenait pas des mandats d'aide juridique, donc moi, dans ma tête, ça n'existait pas. Donc, j'ai commencé sans prendre de mandat d'aide juridique. Finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai réalisé qu'il y avait quand même possibilité d'être énuméré, oui, là, mais de aussi pouvoir toucher à d'autres dossiers, des dossiers un peu différents, puis de rentrer dans la population carcérale. Personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Donc, d'accepter les mandats d'aide juridique, ça me permettait d'avoir une clientèle détenue. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai commencé. Fait que moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, j'en prends pas, puis j'ai commencé à les prendre par la suite. C'est certain aussi, il y a l'aspect, des fois, on a des clients... moi, je les appelle mes clients réguliers, là, mes clients qui me rappellent, c'est encore moi, Alex. Là. C'est sûr qu'eux, des fois, quand tu leur dis, bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Là, souvent, c'est évident, c'est pas des... Quand je dis ça, il faut pas s'imaginer à quelqu'un que ça fait 8 fois qu'il s'en va assassiner du monde. Là. C'est pas nécessairement toujours des gros crimes. Là. On pense droit criminel, on pense meurtre, là, mais... Un criminel, ça peut être un bris de probation d'avoir fumé un joint alors qu'il y avait une condition de ne pas prendre de drogue. Là. Fait que, faut aussi penser que c'est pas juste des gros crimes immoraux. Là. Donc, c'est certain que ça, quand c'est des clients qu'on représente déjà, ben on va accepter les mandats d'aide juridique aussi un peu plus, facilement, indépendamment de qu'est-ce qu'il y en est de la rémunération.
Bon, on sait que la recherche, ça évolue constamment. Est-ce que le droit criminel aussi, ça évolue constamment?
Oui, parce que surtout dans les dernières années, je pense que la portion du droit criminel qui a le plus évolué, c'est en matière sexuelle, justement, en matière d'agression sexuelle. Si on pense là, au fait que la Cour suprême du Canada a resserré... quand même de façon importante les possibilités de poser certaines questions qui portent atteinte à la vie privée là, des plaignantes en matière, des plaignants et plaignantes en matière sexuelle. Ça, c'est quelque chose qui, je pense que dans les dernières années, a drastiquement changé. Donc, on ne peut pas, en tant qu'avocat de la défense, mais aussi à la couronne, ça a été réitéré cet automne par la Cour suprême. Donc, il ne faut pas penser que c'est juste les avocats de la défense qui faisaient ça, mais il ne faut pas perpétuer les mythes et stéréotypes en matière d'agression sexuelle. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'assez qui change la pratique en matière criminelle, autant à la couronne qu'en matière en défense. Là. Donc, tout ce qui est perpétuer les mythes et stéréotypes, ben, par exemple, on ne peut pas poser des questions sur les comportements sexuels antérieurs d'un ou d'une plaignante pour essayer de mettre en preuve que cette journée-là, la personne ben, a consenté. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même un gros avancement. Ça change la pratique, ça change la façon qu'on gère les dossiers aussi, autant à la couronne qu'à la défense. Donc, de pouvoir vraiment, quand on a un dossier en matière sexuelle, de se concentrer avec des œillères, ben, à ce moment-là, est-ce que la personne était consentante ou pas, et est-ce que le consentement a été communiqué ou pas, de la bonne façon. Fait que ça change la façon de faire les débats, plutôt que d'essayer de juste discréditer un témoin en disant « Ah, ben ce témoin-là, dans le passé, a déjà fait ça », ben là, on se concentre vraiment sur les événements. Fait que ça, c'est quand même un changement assez drastique en matière de droit criminel.
Ouais. Les juges ont chacun leur personnalité. Pour avoir couvert certains procès, dans le début de ma carrière, je voyais qu'il y avait des juges qui étaient « tough on crime », d'autres qui étaient un peu plus... réservés, puis qui donnaient des sentences qui étaient, je vous dirais, dans la moyenne, là. Mais il y en a d'autres qui voulaient augmenter constamment les sentences. Est-ce que vous, en tant qu'avocat criminaliste, vous êtes capable de les identifier d'avance, ces juges-là? Est-ce que vous savez, oh, avec ce client-là, là, c'est ce juge-là qu'on a, ça risque d'être une tâche plus difficile pour moi, puis de dire, oh, ça va être un plus gros challenge là, avec ce juge-là. Ça vous arrive-tu, ces réflexions-là?
Ça l'arrive. C'est sûr que je vais quand même mettre un bémol. Je pense quand même que les juges ils ont une tâche quand même assez difficile aussi. Là. Donc, c'est certain que, surtout à Québec, là, je pense que les juges qui entendent les causes, du moins, ils semblent avoir à cœur d'être vraiment impartial. Donc, on est quand même chanceux. Là. En tout cas, moi, je trouve qu'on est quand même chanceux parce que quand on se présente devant des juges, on peut toujours se poser la question, mais je pense qu'ils ont le désir fondamental d'être impartial. Ça, c'est quand même très important et rassurant. Maintenant, c'est certain que chaque juge, ça reste un être humain. Ils ont leur propre personnalité. Donc, c'est certain qu'à autant la défense qu'à la couronne, on va essayer de... Des fois, peut-être, je peux présenter une preuve d'une façon différente, sachant que c'est tel juge, mais jamais vraiment dans la tête de me dire, ah, c'est gagné d'avance ou ah, c'est perdu d'avance. Parce qu'on peut être surpris. Je pense que quand j'ai commencé à pratiquer, des fois, c'était le genre de pensée un peu facile à avoir, là, dans le sens que c'est intuitif là, de dire « Ah, mais ça, mais ce juge-là, ça fait quelques dossiers que j'ai en matière d'armes à feu, ça semble pas faire, ça semble être important pour lui, mais ouais. Finalement, tu présentes un autre dossier avec d'autres arguments, puis ça il va discuter sur celui-là. » Fait que je pense que c'est plus la façon de présenter les arguments, puis de comprendre que les juges, ça reste des êtres humains aussi, là, donc... plus dans ce sens-là que j'aborderai ma réponse.
Parce qu'il y a des avocats aussi qui ont leur propre personnalité. Moi, je me souviens d'avoir vu à l'œuvre, je pense que c'est Maître Jacques Larochelle. c'était théâtral, là, ses prestations. Ouais. Puis à chaque fois que je voyais le juge être en face de Maître Larochelle, je me disais tout le temps, hey boy, que je veux pas être le juge. Mais Maître Larochelle, qui est, je sais pas, est-ce qu'il exerce encore?
Je ne l'ai pas vu récemment, donc je ne saurais pas.
Ben, il s'occupait beaucoup de la cause de l'ex-juge Jacques Delisle, ouais. Mais Maître Larochelle était exceptionnel. Mais il y a beaucoup de personnages, là, autant au niveau des juges que des avocats. Mais comme avocat, Maître Larochelle m'avait marqué.
Marqué.
Okay. Ah oui, vraiment. Donc, ce que vous me dites, c'est que le droit criminel progresse. Est-ce que vous êtes appelé souvent à négocier avec la couronne pour ce qui est des sentences? Est-ce que vous devez négocier avec la couronne pour ce qui est des sentences pour tenter de faciliter les choses? Quand on s'entend, quand le détenu ou le criminel dit « ben moi, je suis coupable », est-ce que vous devez d'abord négocier avec la couronne ou c'est le juge qui doit faire tout de A à Z?
Ben, tous les jours. Ben, tous les jours, je négocie avec les procureurs. On s'appelle, on s'envoie des courriels, on avance nos positions. C'est certain que dans le conseil que j'ai à faire de mon client, dans le chemin plaidoyer de culpabilité, de recevoir une peine ou tout simplement de fixer un procès, c'est certain que je dois savoir la position du procureur de la couronne. Est-ce que je suis capable de faire valoir que c'est un individu qui, malgré le geste qui est reproché, il y a peut-être le geste peut s'expliquer sans nécessairement l'excuser. Le geste peut peut-être s'expliquer, peut-être un contexte particulier de l'affaire, mais est-ce que je vais l'exposer au procureur de la couronne? Ça, il faut que je prenne cette décision-là. Ensuite de ça, bien, dans les discussions qu'on a, est-ce que je suis capable de faire valoir que c'est peut-être pas de la détention que cette personne-là mérite parce qu'elle a déjà entamé un processus de réhabilitation? Par exemple, je vais donner un exemple, quelqu'un qui se bat dans un bar parce qu'à chaque fois qu'il consomme, il devient violent, bien évidemment, c'est une problématique. C'est une réelle problématique sociétale, quelqu'un qui se bat dans des bars quand il est sous. Mais est-ce que cette personne-là doit absolument être isolée en prison où on favorise que cet individu-là aille en thérapie pendant 4, 5, 6 mois pour travailler sur ses enjeux de colère, d'impulsivité, puis de consommation aussi, hein, parce que souvent les gens qui sont près des enjeux de consommation, il y a des enjeux aussi sous-jacents autres. Ben, c'est de faire valoir ces points-là au procureur, de dire ben, peut-être que cet individu-là, au lieu de l'envoyer en prison 6 mois pour qu'il réfléchisse, ben, peut-être qu'il est déjà en train de réfléchir, puis devrait aller en thérapie, puis devrait faire des travaux communautaires, redonner à la communauté. Puis ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Sinon, il y a le processus de facilitation pénale qui est bien tendance, je dirais, depuis les dernières années. Donc, facilitation pénale, c'est une espèce de médiation. On n'est pas en salle de cour, on est détogé, on va dans le bureau du juge qui préside la facilitation. On va exposer nos deux positions. Le procureur de la couronne va exposer, ben moi c'est ça ma position. L'avocat de la défense va expliquer sa version. Puis on explique pourquoi on veut aller en facilitation. Est-ce que c'est pour une question d'enjeu de est-ce qu'il devrait reconnaître l'ensemble de ce que le procureur de la couronne pense avoir contre le client? Est-ce que c'est un enjeu, la peine? Est-ce que ça vaudrait la peine, t'sais, de négocier sur la peine ou pas? Donc, le processus de facilitation pénale, c'est quand même très intéressant parce que ça nous permet aussi, en tant qu'avocat, de tester notre position aussi en quelque sorte, parce que le juge, autant que le juge peut dire, hey, mettre l'angle là, ce dossier-là, vous êtes dans le champ, ou des fois, ben, c'est hey, la couronne, c'est pas du tout là que vous devriez aller. Je pense que la défense amène des bons points, je pense que la couronne amène des bons points sur certaines choses. Fait que des fois, même entre avocats, ben, ça nous permet aussi de faire évoluer notre position. Puis je pense que c'est un processus qui est bien accueilli, puis bien implanté, du moins à Québec, là, puis je trouve ça rassurant.
Maître Alexandre Langlois, qu'est-ce qui fait en sorte que le processus en cours est long, surtout au niveau criminel? Des fois, bon, il y a des accusations qui sont déposées, puis c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois plus tard. C'est quoi? Qu'est-ce qui explique tous ces retards-là? Il y a trop de criminels au Québec ou c'est juste que le système fait en sorte qu'avec la paperasse et tout ça, les disponibilités des juges, des avocats, que ce soit de la couronne ou de la défense, c'est toujours compliqué?
Je pense que c'est. Je vais répondre toutes ces réponses un peu dans l'ensemble. C'est certain qu'il y a un fait qu'il faut penser aussi, c'est que la personne, quand elle s'est fait arrêter, bon, elle va avoir une date de cour. On se présente à la date de cour, on reçoit ce qu'on appelle la divulgation de la preuve, donc qui est l'ensemble des éléments que le procureur de la couronne a contre notre client. Mais là, à ce moment-là, il faut l'évaluer. C'est sûr que je ne prends pas position à la comparution. Donc là, il faut faire un premier report, il faut reporter pour pouvoir analyser le dossier. Contrairement à ce que certains de mes clients pensent, je n'ai pas juste un client. Des fois, il y a des clients qui nous appellent qui nous appellent 3, 4 fois dans la même journée. J'ai plusieurs clients en même temps, donc je peux pas nécessairement me dire je vais travailler immédiatement là, sur le dossier.
Ils ont une facture de 1 000 $, mais ils ont l'impression que vous travaillez pour lui depuis 18 mois. Ouais, c'est.
Exactement, ouais, exactement. Mais c'est ça. Mais c'est faut quand même travailler sur le dossier, puis entamer des discussions. Des fois, après ça, il peut y avoir la question aussi, est-ce que j'engage un expert? Ben, faut que je trouve l'expert. Faut que l'expert évalue le dossier. Lui aussi, ça peut créer des délais. Fait qu'en défense, il y a des délais qui se créent. Comme même chose qu'en couronne, à la couronne, si moi je fais valoir mon point puis qu'ils veulent vérifier quelque chose, ben, ça peut nécessiter un autre part. Ensuite, évidemment. Il y a la disponibilité de la cour, des fois, qui peut être difficile, là. Je veux dire, la semaine passée, le 2 semaines, j'ai fixé un procès de 3 jours. On est rendu on est en novembre, là, 2025, là. Pour un procès de 3 jours, j'ai été rendu en juin 2026, là. Donc, mais c'est qu'il n'y avait pas de date puis de juge d'être disponible. Donc, c'est sûr que ça fait partie aussi des enjeux. La disponibilité des salles de cours, la disponibilité des juges, la
Ouais.
disponibilité.
Est-ce que je sais que pendant la pandémie, au niveau du droit, c'est pas du droit criminel, mais du droit des affaires, on avait mis en place un système où les avocats pouvaient être directement au bureau et le juge était chez eux. puis on procédait quand même. Est-ce qu'à long terme, ça va devenir comme ça, Maître Langlois? On va vous permettre de plaider de chez vous, puis l'accusé, s'il est incarcéré, il va pouvoir témoigner en direct du centre de détention. Il me semble que ça faciliterait les choses. Ça vous enlèverait du trafic, ce qui ferait vraiment mon affaire, parce que moi, j'ai besoin d'être dans le trafic. Mais il me semble que ça faciliterait les choses. Vous pourriez, le 2 heures que vous êtes dans le trafic par jour, vous pourriez les consacrer au travail. Même affaire pour ce qui est du juge, même affaire pour ce qui est de la couronne.
Moi, je pense qu'on voit l'inverse. Je sais qu'en civil, c'est différent, là, mais en criminel, du moins, la Cour du Québec a statué que c'est important d'être... en présentiel. Il y a encore la possibilité, là, souvent pour la chambre de pratique, là, la chambre de pratique, ça, c'est les salles à volume, parce qu'on gère les dossiers finalement. Ça, il y a beaucoup d'avocats qui se connectent en team. Ça permet aussi d'avoir des dossiers dans d'autres districts judiciaires, comme par exemple si j'ai un dossier demain à Montmagny, bien, je peux me connecter par Teams à Montmagny.
Exact.
Mais tout ce qui est les procédures, ce qu'on doit plaider, ça doit se faire en personne. Même chose, les détenus doivent être apportés, ben les détenus doivent être apportés, oui, mais les clients aussi doivent être présents physiquement lors de leur process. Sinon, la majorité du temps, ils peuvent le faire par Teams. Donc, le Teams est très utilisé en chambre criminelle, mais la tendance, je pense, c'est de garder en présentiel. Évidemment, en criminel, il y a une portion importante dans l'évaluation du juge. La preuve, c'est l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité là, des témoignages. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus facile de regarder le non-verbal de quelqu'un qui est en présentiel devant nous. Donc, ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi je pense qu'en criminel, on n'aura jamais une... Il n'y aura jamais un effacement total du présentiel. Là. Ça, je pense qu'on ne s'enlignera pas vers
parce que,
là.
Parce que quand c'est devant... Ouais, quand c'est devant juge et jury, je comprends qu'on se réunisse tous dans la même salle, mais quand c'est devant le juge seul, puis c'est pas... exemple, dans des dossiers d'alcool au volant, là, il me semble que ça monopolise beaucoup de monde sur la route pour que le gars puisse aller au municipal pour plaider à savoir s'il est coupable ou non. Là.
Ben, reste que ça, c'est l'enjeu encore de la crédibilité, de la fiabilité. C'est un enjeu qui est vraiment important puis qui est quand même beaucoup discuté là, dans la communauté. Là. Puis c'est, je pense que c'est la raison aussi pourquoi la Cour du Québec, dans ses directives, ont tranché que les avocats doivent être en présentiel pour éviter aussi certains abus. Parce qu'on a vu toutes sortes de choses, autant des clients qui se connectent en Teams sans chandail ou des clients qui sont en train de... Moi, j'en ai déjà vu un, j'étais en salle de cours, le client, il se connecte pour une procédure quand même importante. Il est en train de travailler dans un garage, il était en dessous d'un véhicule, il avait installé sa caméra, puis je faisais je sais pas quoi en dessous du véhicule, évidemment, le juge, je dis qu'est-ce que vous faites, là. Donc, c'est sûr qu'il y a une question aussi du décorum, je pense que...
Ouais, je comprends.
Faut faire attention, mais évidemment, ça, c'est comme dans tout, là, on peut pas...
Et la paperasse, est-ce qu'on a diminué la paperasse? Est-ce qu'on numérise tous vos dossiers maintenant, ou on est encore sur papier?
Ça, c'est mon plus grand combat. Je suis content qu'on pose cette question-là parce que moi, j'essaie d'avoir... Ben, en fait, moi, ma pratique, j'essaie de la numériser à 100% de faire le volet parce que j'aime pas ça traîner tous mes dossiers au palais de justice. Juste traîner mon ordinateur, ça va beaucoup mieux. Je sais qu'il y a eu un projet pilote 1 an, 2 ans, je veux pas m'avancer sur quand, mais au DPCP, là, donc au Bureau du directeur des poursuites pénales et criminelles pour... numériser la preuve, la fournir de façon numérique. Je ne sais pas exactement c'est rendu où, mais il faut se dire qu'en criminel, quand je dis qu'on comparait, là, on va chercher la divulgation de la preuve, c'est papier.
Ouais.
Donc, on me la remet papier, puis moi, je me dis, ouais, on s'en va en 2026. C'est sûr que c'est plus facile de me l'envoyer par courriel, me l'envoyer sur un fichier sécurisé ou quoi que ce soit. Là. C'est sûr que là, après ça, bon... sans vouloir rentrer trop en détail, on a vu ce que le gouvernement fait faire avec certaines plateformes en ligne. Là. Fait que peut-être que c'est pas le bon moment pour mettre une plateforme en ligne en ce moment, mais c'est certain que la majorité du temps, c'est du papier ou des vidéos ou des photos. Là. C'est pas du matériel qui est impossible là, à transmettre de façon numérique. J'espère au plus profond de moi que dans les prochaines années, il va y avoir un avancement majeur au niveau de la justice, parce qu'en mon sens, je veux dire, c'est du gaspillage de papier aussi, là. C'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Donc, j'espère, du plus profond de moi, que ça va se changer, que ça va changer dans les prochaines années.
Puis une fois que c'est numérisé, ça se perd pas, là. Tu sais, ça va toujours ça va toujours se conserver. OK. Hey, j'ai une question pertinente à mes yeux à vous poser. Vous jugerez,
ouais.
Maître Alexandre Langlois, si ça l'est ou pas. Je me suis toujours demandé comment les juges faisaient pour identifier quel était l'individu le plus crédible quand on lui expose deux experts, un expert qui est du côté de la couronne, l'autre expert qui est du côté de la défense. Et là, ben, il y a les avocats qui sont là, il y a les experts qui arrivent comme témoins. Le juge, là, il n'est pas spécialisé en aéronautique ou il n'est pas spécialisé, je ne sais pas moi, vous êtes dans le droit criminel, il n'est pas spécialisé en gouttelettes de sang. Mais il y a deux experts, un du côté de la défense puis l'autre du côté de la couronne, qui parlent de gouttelettes de sang puis essaient le plus possible d'avoir de l'air crédible aux yeux du juge. Je me suis toujours demandé pourquoi ces deux experts-là ou pourquoi il n'y a pas trois experts qui travaillent uniquement avec le juge pour être capable d'établir ben, la gouttelette là, de sang a été projetée de quelle place à quelle place. T'sais. Le juge n'est pas en mesure de tout savoir ça, Maître Langlois.
Ben, c'est vrai que c'est une excellente question. C'est sûr que là, ça rentre dans ce que j'aime du litige, c'est-à-dire faire valoir mon point. donc, c'est sûr que si moi j'ai un point et je travaille avec un expert, c'est mon objectif que le juge retienne la version de mon expert. C'est certain, je pense que le rendu là, je pense que c'est 100% une question de stratégie de la part de la couronne, de la défense, de comment on va présenter l'expert, comment on va poser les questions à l'expert. De moi, j'ai un background en biochimie, microbiologie, fait que c'est certain que un expert en toxicologue qui est chimiste, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire parler. Je sais quelles questions il faut poser pour amener les bons renseignements au juge. Mais c'est certain que je pense que de trancher entre deux experts, c'est quand même quelque chose de difficile parce qu'évidemment, le juge n'est pas nécessairement expert, pas nécessairement un background en sciences, pas nécessairement. Donc, je pense que c'est quand même excessivement difficile pour le juge aussi. Puis je sais qu'en civil, c'est possible de nommer, par exemple, en civil, de nommer un expert commun pour les parties. En criminel, je pense que ça serait un peu plus difficile parce que là, on est vraiment toujours dans les versions contradictoires. C'est rare qu'on pourrait. En tout cas, moi, personnellement, en défense, je trouverais ça difficile de faire nommer un expert commun puis de pas avoir la possibilité de challenger avec un autre expert. Mais évidemment, après ça rentre aussi dans ce que j'expliquais au tout début. Si jamais on n'est pas capable d'avoir d'autres versions ou que l'expert semble avoir raison, ben faut pas non plus avoir de l'air stupide devant le juge en disant que l'expert a tort. Là. Donc, on va peut-être plus s'orienter vers un plaidoyer de culpabilité.
Mais je comprends tout ça. C'est juste que j'essaie de me mettre dans la peau de ces êtres insensibles qui sont les juges puis qui tentaient d'évaluer la pertinence du psychiatre 1 versus la pertinence du psychiatre 2 alors que les deux ont la même formation. Lequel est le plus crédible? Pauvre juge, bon Dieu, j'aimerais pas ça être à sa place. Là. Ça doit être difficile à évaluer. Là. La psychiatrie, là, c'est des médicaments, c'est de la psychologie qui est au travers de tout ça. C'est extrêmement complexe. Si vous n'êtes pas psychiatre, vous comprenez rien, là.
Oui, mais c'est sûr que je pense que le juge a quand même intérêt à se positionner avec ce qui est présenté devant lui, là, ça c'est certain, mais ça reste une lourde tâche, c'est ça.
Maître Langlois, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous me permettez de faire une courte pause?
Certainement.
On se fait un droit criminel 101 avec Maître Alexandre Langlois. Vous pouvez le rejoindre chez alterlexis.ca, alterlexi. Ou Lexis, je pense que c'est Lexis, alterlexis.ca. Et on revient tout de suite après la pause.
Marceau le soir. Marceau le matin.
T'appelles Marceau.
Félicitations pour cette organisation hors pair, ce montant amassé. C'est extraordinaire ce que tu fais pour la bouchée générale.
Félicitations aux gens de la NSPW, à mon chum Steve Boutette qui était là. Puis à tous les auditeurs aussi qui étaient présents.
Hey, votre gear de lutteur aux couleurs de boulevard était tout simplement hallucinant.
Mais vu en bobette, les gars. Ouais. Quel impact que ça a eu sur vous autres?
Je sais pas, pas vraiment rien de particulier.
Je m'en souviens pas.
Non.
Marceau, le matin. En semaine, 6h.
Ce segment d'émission, présenté par Caron Aiguë. Profitez de notre promotion exclusive, le triple verre au prix du double. Une isolation supérieure et des économies d'énergie. CaronAiguë.com.
Envie de vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire? Découvrez les extravagances carnavalesques du Carnaval de Québec en collaboration avec l'Auto-Québec. Amateurs de sensations fortes, tentez la descente en rappel sur le Fairmont, le Château Frontenac. Plutôt du type party, la nuit blanche carnavalesque présentée par Pop Underwear vous attend. Jouez aussi au Laser Game Evolution à la Citadelle, propulsé par Weekend 91.9. Et nouvelle expérience, vivez l'ambiance du Sud à la façon du Nord avec Caillou Carnaval au Spa des Neiges. Réservé au carnaval.qc.ca.
Saviez-vous que Porter offre un vol direct chaque jour entre l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et le centre-ville de Toronto? Visitez décollerdequebec.ca pour en savoir plus.
Du 20 au 26 novembre chez Family Prix, profitez de 25% de rabais sur une sélection de soins Bioderma ou Vichy. Ce n'est pas tout. Le papier hygiénique ou les essuie-tout Cascade Jumbo à seulement 10,99 $. Family Prix, vos économies qui font du bien.
C'est le Bunny Hyundai du Vendredi fou. Obtenez jusqu'à 750 $ en bonus supplémentaire sur modèles sélectionnés, en plus de nos offres existantes. Plus, financez un Tucson hybride rechargeable à partir de 2,99% avec jusqu'à 2 500 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. Mais faites vite, après le 1er décembre, le vendredi fou, c'est fini. Et dès 2026, les offres gouvernementales diminuent. Ce serait fou de manquer ça.
Les conditions s'appliquent. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
C'est le vendredi fou chez Sale. Profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une vaste sélection d'articles de plein air de vos marques préférées. Économisez sur The North Face, Columbia, Merrell, Osprey, Black Diamond et plus. Pour un temps limité, Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Ah oh ben ta p***! La grosse labatte est à 5 piastres plus taxe chez Québec Brou. Puis là, je te parle pas d'une pinte, mon ami. Non, non, je te parle de la grosse quille. Puis ça, c'est tous les jours en tout temps. Combien déjà la grosse labatte chez Québec Brou?
5 piastres.
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'Ancienne Lorette.
Cet hiver, offrez-vous un séjour inoubliable au cœur du Vieux-Québec. L'hôtel Atypique vous accueille dans une ambiance unique entre attraits historiques, cafés chaleureux et ambiance romantique. Et grâce à Mercado.fm, profitez d'un forfait exclusif au meilleur prix de l'année. Le cadeau de Noël idéal pour gâter quelqu'un que vous aimez ou pour vous faire plaisir. Confort, rencontre et décor féerique vous attendent à l'hôtel Atypique. Visitez Mercado.fm dès maintenant.
Cet hiver, offrez à votre maison le confort qu'elle mérite. Chez Caron Aiguë, profitez de notre promotion exclusive. Le triple verre au prix du double. Une isolation supérieure et des économies d'énergie sans compromis sur le prix. Des produits conçus ici pour les températures extrêmes d'ici. Caron Aiguë, c'est l'innovation locale au service de votre maison et de votre confort. Visitez caronaiguë.com ou passez nous voir en succursale pour en profiter.
À Noël, offrez un moment de pur bien-être avec le Spa Infinima. Profitez de rabais allant de 15 à 25 % à l'achat de cartes cadeaux de 100 $ ou plus. Cette année, offrez l'art du soin signé Infinima. Tous les détails au infinima.com.
Dernière semaine de prévente pour la passe de soir Stoneham Mont-Sainte-Anne. Du ski tous les soirs dès le 5 décembre à Stoneham et du jeudi au samedi au Mont-Sainte-Anne dès le 26 décembre. Plus d'une centaine de soirées de pur plaisir. Pas d'équipement? La passe équipée s'occupe de tout. On se voit sur les pistes.
Pour un vrai buffet de Noël, pensez à Buffet 7000. Trouvez-y des repas traditionnels et réconfortants. Sandwich pas de croûte, salade de macaroni, tourtière, dinde, bref, tout ce qu'on aime pour les fêtes. Buffet 7000, le goût des traditions à prix compétitif.
Les bornes de recharge et le service client interpellent. E3 Électricité, une entreprise dynamique offrant des services d'installation électrique résidentielle et commerciale, recrute un électricien compagnon. Vous êtes autonome, dynamique et allumé? Postulez au e3electricité.ca ou au carrière.fm.
Et si vos achats du vendredi fou prenaient soudainement la forme d'un billet d'avion?
Chez TELUS Horizon Mobile, en collaboration avec Google et Voyage Fascination, vous pourriez gagner un crédit voyage de 5 000 $ pour partir où vous voulez. Pour participer, rendez-vous dans vos boutiques Horizon Mobile, détaillant TELUS sur Pierre-Bertrand ou au Mégacentre Rive-Sud, ou inscrivez-vous en ligne au toncel.ca/concours. Le vendredi fou chez votre détaillant TELUS Horizon Mobile,
c'est des offres de feu
et peut-être le voyage de votre vie.
Dans la vie, il y a deux sortes de monde. Ceux qui connaissent et aiment Décathlon et ceux qui n'ont pas encore découvert notre marque. Avec une vaste sélection de produits pour plus de 60 sports, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de chaque instant dehors cet hiver. Trouvez innovation et qualité à des prix abordables, le tout sous un même toit. Venez visiter le magasin Décathlon de Sainte-Foy ou du PEPS de l'Université Laval. Prêt à jouer cet hiver? C'est-tu vrai? Les huîtres sont à 1$ au restaurant Ophélia?
Oui, oui. Lorsque tu t'assois au bar, en tout temps, tu peux profiter des huîtres à 1$.
Wow! Je peux débarquer n'importe quand, juste parce que j'ai envie d'huîtres?
Exactement. Un 5 à 7 improvisé, une soirée qui s'étire, ou juste parce que t'aimes les huîtres. Ophélia, sur Grande Allée, les huîtres sont à 1$ au bar, en tout temps. Restaurant Ophélia.com.
On dit qu'on a trouvé le bon véhicule quand on sourit dès qu'on s'assoit dedans. Le Volkswagen Tiguan crée exactement ce sentiment-là. Confort, espace, technologie et un je ne sais quoi qui donne envie de prolonger la route. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pourriez l'obtenir pour seulement $122,31 par semaine en location 51 mois avec 16 000 km par année. Passez chez Laval Volkswagen pour venir le voir. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Offrez-vous l'épilation définitive au laser Triton à $399, 6 séances, une région chez Viva et courez la chance de gagner un crédit voyage de $2000. Cliniqueviva.com.
Family Prix est fidèle au poste avec sa circulaire en ligne. Repérez les aubaines de la semaine sur familyprix.com ou abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir votre circulaire personnalisée avant tout le monde. Family Prix, vos économies commencent ici.
Hé, hey, on s'achète-tu un chalet?
Ben là, on a 22 ans. Tu veux juste un chalet parce qu'on vient de gagner au Lotomax? Puis t'as bien raison, chalet, chien, chalet, ben voyons.
Prochain tirage, 55 millions plus 4 max millions.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On se fait un cours de droit criminel 101 avec Maître Alexandre Langlois. On parle de plein de sujets. On va à gauche, on va à droite. Maître Langlois, jusqu'à maintenant, tout va bien pour vous dans cette émission. J'ai pas des questions trop difficiles. Je parais pas comme un avocat de la couronne extrêmement sévère à votre égard.
Non, pour l'instant, ça va bien. J'ai déjà été plus challengé.
Ah, ben OK, mais c'est un beau challenge. OK, vous aimez ça, le challenge, je vais y aller.
Ouais.
Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, Maître Langlois, est-ce que ça a facilité votre travail ou ça a nuit un peu puisque vous avez probablement des clients qui tentent de l'utiliser pour essayer de vous faire sauver du temps?
Pour l'instant, je dirais que moi, personnellement, j'ai pas encore eu d'enjeux soulevés avec l'intelligence artificielle. C'est certain que là où peut-être en tant que praticien du droit, on doit s'allumer une petite lumière, c'est qu'avant, des photos, des vidéos, on pouvait se dire, est-ce que ça a réellement été altéré,
ouais.
la vidéo, la photo? Ben là, il faut peut-être être un peu plus vigilant, puis de regarder, puis de s'assurer que la chaîne de possession, fait, la vidéo de où est-ce qu'elle émane, puis jusqu'à temps qu'elle arrive dans mes mains, est-ce qu'il y a eu une possibilité qu'elle a été altérée? Ça, je pense que c'est un enjeu quand même assez majeur. Heureusement, de ma connaissance, c'est pas encore une problématique qui est soulevée si fréquemment, mais je pense que ça pourrait rapidement devenir un enjeu.
Ouais. Est-ce qu'un jour, on en arrivera à avoir des avocats uniquement avec l'intelligence artificielle, puis des juges uniquement avec l'intelligence artificielle? Je pense entre autres à des dossiers peut-être un peu plus municipaux, là. Donc quelqu'un qui a pété une ballonne, donc qui plaide coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Le gars considère qu'il est coupable, il passe avec un avocat d'intelligence artificielle, il plaide coupable, pas besoin de cour, c'est un juge avec l'intelligence artificielle qui dit « ben voilà ta sentence », puis là, ben tout le système se met en branle. C'est-tu ça dans 50 ans? C'est-tu ça dans 100 ans?
C'est une bonne question. Moi, je pense que ça va effectivement modifier, changer la profession, la pratique, autant les juges que les avocats. Est-ce qu'on va arriver à un système où ça va être 100% remplacé? Moi, je trouve que ça serait... Je pense que c'est un peu utopique, ça serait un peu complexe là, à faire, là, parce qu'il y a quand même un enjeu humain qui est super exact. Important, puis il y a un enjeu aussi, une zone grise, là, tu sais, où, dans mon quotidien, on me pose la question, puis la première chose que je vais dire, souvent c'est une joke qu'on entend entre avocats, mais la première chose que je vais dire, c'est ça dépend. Fait que ça dépend de plusieurs facteurs, pas juste des choses que j'ai appris dans mon bac en droit ou en lisant sur la jurisprudence en criminel, mais ça va dépendre de plusieurs choses, de l'intention, de comment ça a été fait. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être difficilement être évaluées de façon binaire, là, t'sais, oui ou non, par une intelligence artificielle. Je pense que ça peut faciliter l'analyse peut-être de certains dossiers. Peut-être en matière municipale, en matière pénale, là, le cas de la sécurité routière, par exemple, un constat d'infraction de vitesse, est-ce que ça pourrait arriver un peu plus rapidement, l'intelligence artificielle, peut-être, mais même encore là, on a un dossier de mettons, un grand excès de vitesse, l'individu reconnaît qu'il roulait vite, mais veut faire valoir une version où il roulait pas si vite que ça,
exact.
Mais comment qu'on évalue ça avec l'intelligence artificielle, si c'est possible de le faire, je pense que ça pourrait désengorger les tribunaux, puis concentrer sur des dossiers d'importance un peu plus sociétale, ça c'est certain, mais je pense qu'il va y avoir un des gros changements qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle, mais de là à dire que tout va disparaître, les juges puis les avocats, je ne penserais pas.
Non, je suis un peu d'accord avec vous, Maître Langlois. Autre question que je voulais vous poser, est-ce que ça arrive souvent, des erreurs, je ne sais pas moi, lors d'intervention, les policiers arrivent, prenons un dossier d'alcool au volant, là. Ça arrive-tu encore, les erreurs dans les dossiers d'alcool au volant?
Oui, sinon j'aurais pas de travail.
Ça existe encore, pourtant les policiers sont bien formés, là.
Oui, mais je dis ça vraiment, moi je dis ça avec grand respect là, pour les policiers, là. Je veux dire, je pense qu'ils ont un travail excessivement difficile, là, puis je ferais pour rien au monde leur travail, mais c'est certain que des fois, bon, il y a certaines situations qui peuvent, que ce soit de vouloir... peut-être même de bonne foi, là, d'avoir voulu précipiter les choses, d'avoir un peu tourné coin rond parce qu'on avait un autre dossier, on avait un autre call à aller travailler peut-être un peu plus urgent. Des fois, il y a des erreurs qu'on voit qui sont faites de bonne foi. Là, donc, il ne faut pas penser non plus que les avocats de la défense, on est là en train de dire que les policiers sont tous mauvais et ils font mal leur job. Moi, c'est pas du tout le discours que j'ai. Mais des fois, on regarde des dossiers et on dit, ben là, il n'y a jamais dit le droit à l'avocat, là, par exemple. Puis, est-ce que le policier voulait foncièrement cette journée-là mal faire sa job? Je ne penserais pas. Des fois, ça peut être un simple oubli, mais des fois, ça peut être aussi, bon, le policier essaie de poser des questions, il n'a jamais dit le droit à l'avocat, mais on se dit, ben là, le principe, par exemple, du droit à l'avocat, c'est de permettre à un individu qui est contre l'État, contre des policiers, donc qui est en situation vulnérable, de parler avec quelqu'un de confiance qui peut lui dire un peu, bon, tu sais, les prochaines étapes, ça va être ça. Et c'est sûr que si on ne permet pas le droit à l'avocat, même si c'est de bonne foi, bien, ça peut quand même entraîner des problématiques là, au niveau du respect des droits fondamentaux qui sont dans notre charte. Là.
Donc, il existe encore des façons pour quelqu'un qui est accusé de conduite avec les facultés affaiblies de s'en sortir. C'est pas une accusation qui va mener obligatoirement à une culpabilité, là.
Non, c'est difficile, effectivement, avec parce que la question des motifs, là, de savoir si la personne a des facultés affaiblies, là, est quand même bien présente.
Ouais.
Mais c'est certain qu'il y a toujours souvent, des fois, on peut regarder, évaluer s'il y a des enjeux, justement, de charte. Donc, comme je parlais du droit à l'avocat, droit au silence, les fouilles abusées, des choses comme ça, qui doivent être évaluées par un avocat de la défense. Puis souvent, les gens... Ils se disent, ah, là, c'est facile, les gens, s'ils l'ont commis le crime, pourquoi on permettrait de faire ça? Mais moi, j'invite aussi les gens à prendre la réflexion. Bien, c'est si on accepte qu'un policier, droit à l'avocat cette journée-là, c'était pas tant important, même si c'est peut-être de bonne foi parce qu'il faisait son travail de la bonne façon, bien, c'est où la prochaine étape? Fait que, si on accepte ça, on trace une ligne. Bien, la ligne, on va toujours aller un petit peu plus loin. Fait que la ligne, elle va toujours se tasser. C'est pour ça que même si on peut se dire, écoute, la personne a commis le geste, on essaie de faire valoir des points de charte, comme par exemple le droit à l'avocat, pour faire tomber des accusations, mais la raison derrière tout ça, c'est parce que c'est ça le droit. Puis si on n'accepte pas que le droit est à cette étape-là, on va vouloir traverser la ligne, puis on va vouloir pousser un peu plus loin.
Souvent, Maître Langlois, les gens qui sont extrêmement drastiques, là, c'est dans mon bagage de préjugés qui est ici, j'ai mon sac. Là.
Bon, ouais.
Les gens qui sont extrêmement drastiques, c'est à partir du moment où ça va leur arriver à eux, ils vont être contents de rencontrer un Maître Alexandre Langlois dans leur vie qui vont leur poser des questions à savoir est-ce que la procédure s'est faite dans le sens de la loi, est-ce que le policier vous a lu vos droits, est-ce qu'il vous a dit que vous avez des possibilités de faire appel à un avocat si vous en sentez le besoin. Là, ils vont apprécier là, que ce soit fait de cette façon-là. Là.
Effectivement, oui. Des fois, j'entends entre les branches certains commentaires, puis finalement, les personnes se retournent vers moi qui ont un ticket de vitesse de stop pas fait. Là ils m'appellent étrangement. Là, ils sont contents là, que je sois en mesure de les conseiller pour savoir quoi faire. Oui.
Maître Langlois, c'est déjà tout. Merci beaucoup pour ce droit criminel 101 avec vous. Ça a été un plaisir. Vous êtes rendu disponible pendant 60 minutes dans le podcast de Marceau Soir. Au plaisir de se rencontrer un jour, parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, on est par Zoom, mais ça va être un plaisir de vous serrer la pince lorsque ça donnera. Pour les gens qui veulent vous rejoindre, qui ont des problématiques, là, qui ont des accusations contre eux, ils peuvent vous rejoindre de quelle façon, Maître Langlois?
Le plus facile, c'est vous pouvez regarder sur mon site internet, altervexis.ca. Il y a une place pour envoyer une demande de consultation ou directement de m'appeler au 418-747-1320.
Ou encore taper simplement Maître Alexandre Langlois sur Google, vous allez tomber sur ces informations. Ça a été un plaisir. Je souhaite à vous ainsi qu'aux auditeurs une excellente fin de soirée.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Au revoir. Bye bye.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1 célèbre ses 10 ans avec la Gravel édition 10 ans Boulevard. Une bière blonde lager à 4,4%.